Bonsoir. Je vous souhaite à toutes et tous la bienvenue pour ce dernier cours de Biblos. Nous allons conclure ainsi une série commencée il y a presque 18 mois avec les 8 premiers chapitres des Romains dans notre première série. Et puis, depuis le mois d'août en 2025, nous avons pris les chapitres 9 et suivants de l'évangile, des Romains, qui présentent justement l'évangile. Alors, on est très content de pouvoir conclure cette dernière partie ce soir avec l'appui de Brad Dixon, qu'on remercie beaucoup d'être avec nous. Il était déjà avec nous il y a 2 semaines. Il a pu nous conduire dans l'étude aussi de la fin du chapitre 15. On le remercie, et puis on va prendre le temps aussi de remettre cette soirée entre les mains de Dieu. Je vais prier, et puis ensuite Brad poursuivra la présentation de cette épître en s'arrêtant en particulier sur ce chapitre 16. Alors, je rappelle que il va tout au long de son exposé, il va nous présenter différents slides qui seront projetés. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez le faire en utilisant le QNR en bas de votre écran. Et puis, on consacrera à la fin de chaque session ce soir un petit moment pour répondre à vos éventuelles questions. Alors, avant de lui céder la parole, j'aimerais vous proposer de prier. Seigneur, nous voulons te remercier ce soir de pouvoir ainsi, une nouvelle fois, nous arrêter sur les versets de cette épître aux Romains. Tu vois que nous avons pu l'étudier depuis maintenant près de 18 mois. En commençant tout ce parcours que l'apôtre Paul fait pour présenter l'évangile, et puis ensuite pour nous montrer comment le mettre en pratique, comment l'appliquer. C'est ce que nous allons faire une nouvelle fois ce soir à l'étude de ce chapitre 16. Nous voulons te demander que tu nous conduises dans cette étude, tu sois avec Brad, le soutiennes. Et puis que tu sois avec chacun d'entre nous. Il y a une journée de travail pour la plupart derrière nous. Et nous voulons te demander la concentration nécessaire pour suivre ces 2 heures de cours. Maintenant, nous avons besoin de toi aussi pour être touché par cette parole et pour pouvoir voir comment la mettre en pratique aussi dans notre vie. Alors, nous voulons demander tout cela. Te demander tout cela parce que nous savons que ton esprit est là, il agit à travers ta parole, il agit aussi dans nos vies, il agit à travers celui qui va nous la présenter ce soir, et nous voulons compter sur son action pour écouter ce que tu as à nous dire à chacun. Alors Seigneur, merci de bénir ces instants, d'être aussi sur la technique, de veiller à ce que tout puisse bien se passer. Nous nous recommandons ainsi entre tes mains au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Voilà, Brad.
Bonsoir à tous et merci d'être présents ce soir pour écouter. Et je vous félicite, tous ceux qui ont suivi depuis le début. Bravo, c'est tout un parcours dans l'Épître aux Romains. J'espère que vous en êtes récompensés. En tout cas, c'est notre prière à tous les orateurs et aux organisateurs. Que vous soyez bénis. Voilà le sujet de ce soir, l'Épître aux Romains, chapitre 16, tout le chapitre, du verset 1 au verset 27. Et le titre que vous avez dans le plan que vous suivez depuis le départ, c'est l'Évangile vécu dans la reconnaissance à l'égard d'autrui. Donc, je trouve que c'est un bon titre parce que ça garde le terme Évangile qui est quand même au cœur de l'Épître. Et puis l'évangile vécu, parce que nous avons dans ce chapitre une fenêtre intéressante, je trouve, sur la personne de l'apôtre Paul, sur le cœur de l'apôtre Paul, et sur sa manière d'être avec les gens, sa manière de les saluer, sa manière de les reconnaître, sa manière de les valoriser. Donc, Nous avons ce titre. J'étais tenté de mettre comme titre la page Facebook de l'apôtre Paul, mais je crois que ce serait un petit peu anachronique. Mais nous allons voir que l'apôtre Paul avait de nombreuses personnes qu'il connaissait à l'église de Rome. Voilà comment j'ai divisé ce chapitre. D'abord, dans les deux premiers versets, il va recommander Phoebé à l'église de Rome pour une mission particulière dont nous parlerons. Ensuite, il va saluer, je crois, 26 personnes dans l'église de Rome. On verra cela du verset 3 au verset 16. Ensuite, il va les mettre en garde, une dernière exhortation, si vous voulez, une mise en garde salutaire pour l'église, du verset 17 au verset 20. Et puis, il va permettre à ses collaborateurs qui étaient avec lui, probablement à Corinthe, lorsqu'il écrit, il va leur permettre de eux aussi saluer l'église de Rome et peut-être des personnes qu'ils connaissaient à l'église de Rome. Et puis, il terminera avec une belle doxologie, une louange à Dieu et une bénédiction pour ceux qui le lisent. Et puis, un dernier rappel de l'évangile. Alors que Dieu bénisse notre lecture de sa parole ce soir. Commençons par la recommandation de Phoebé. Nous allons lire les deux premiers versets. Je vous recommande notre sœur Phoebé, qui est diaconesse de l'église de Sancherré. Accueillez-la dans le Seigneur d'une manière digne des saints. Et aidez-la pour toute affaire où elle pourrait avoir besoin de vous. Car elle en a aidé beaucoup, moi y compris. J'ai oublié de préciser que je lis dans la traduction seconde 21. Donc il ne s'agit pas ici de saluer quelqu'un qui est à Rome, mais plutôt de saluer quelqu'un qui se rend à Rome. En l'occurrence, Phoebé. Alors nous l'avons dit dès le départ, je pense que l'apôtre Paul écrit de la ville de Corinthe, mais juste un petit rappel ici, comment le sait-on qu'il écrit de Corinthe? Ben, il y a la personne de Phoebé déjà, qui est désignée ici par Paul comme diaconesse de l'église de Sancherré ou servante de l'église de Sancherré. Sancherré est un port de Corinthe à 2 kilomètres, à quelques kilomètres. De Corinthe, c'est de là que arrivent et partent les bateaux en toute direction, y compris vers Rome. On sait que l'apôtre Paul est chez un dénommé Gaius, son hôte, et on sait que quand Paul écrit à l'église de Corinthe, dans 1 Corinthiens 1, 14, il mentionne qu'il a baptisé un Gaius, certainement un des premiers convertis de l'église de Corinthe. Il mentionnera aussi dans ses salutations Eraste comme trésorier de la ville. Et nous avons une inscription que les archéologues ont trouvée à Corinthe qui porte le nom d'Eraste et comme étant trésorier de la ville. Et puis, nous avons aussi cet indice, la collecte que l'apôtre Paul effectuait auprès des églises grecques et de l'Asie mineure pour apporter de l'argent à Jérusalem. Donc ça correspond parfaitement à Corinthe comme lieu où l'apôtre Paul écrit. Donc cette Phoebé va se rendre de Corinthe vers Rome. Là, vous l'avez sur la carte. Sancherré, qui est vraiment juste à côté de Corinthe, dans l'Achaïe. L'apôtre Paul lui-même, on l'a vu là, dans le dernier chapitre, il va partir de Corinthe, passer par Milet, juste en dessous d'Éphèse, là, en Turquie actuelle, pour se rendre à Jérusalem et plus tard aller à Rome, mais en tant que prisonnier. Alors, qu'est-ce que nous savons au sujet de Phoebé uniquement par ce que Paul écrit dans ces deux autres versets? Nous n'avons pas d'autres textes à son égard dans la Bible. On sait que c'est une femme, une sœur en Christ. On sait qu'elle va voyager de Cenchrée ou de Corinthe vers Rome. On sait qu'elle est chaleureusement, je pourrais dire même très chaleureusement, recommandée par Paul auprès de l'Église de Rome et qu'il croit nécessaire de lui donner cette recommandation. Il demande aux chrétiens de Rome de l'accueillir d'une manière digne, de bien l'accueillir, de l'accueillir comme une sœur en Christ, mais de l'accueillir aussi comme une envoyée un peu officielle de l'Église de Corinthe et de Paul lui-même. Il leur demande aussi, dans cette église à Rome, de l'assister pour toute affaire où elle pourrait avoir besoin d'eux. C'est ici que nous voyons qu'elle vient faire quelque chose d'important pour le ministère, pour le royaume de Dieu, et qu'elle pourrait avoir besoin d'eux. Alors, besoin peut-être de finances, tout simplement, pour retourner vers Corinthe, ou si elle est, l'apôtre Paul lui demande de faire quelque chose de spécifique à Rome, on ne sait pas trop, elle pourrait avoir besoin de leur aide. En tout cas, l'Église doit se mettre à disposition de Phoebé. Il rajoute qu'elle a aidé beaucoup de monde. Elle n'en est pas à son premier service pour le Seigneur, dont l'apôtre Paul lui-même. Dommage qu'on ne sache pas ce qu'elle a fait pour aider les gens ou pour aider Paul. En tout cas, elle mérite bien cette recommandation. On peut noter que dans notre chapitre, elle est en tête. C'est la première personne dont il parlera, alors qu'il parlera de nombreuses personnes. Ça donne une certaine importance aussi à sa mission. Les commentateurs bibliques sont à peu près d'accord pour dire que très probablement, elle a porté la lettre de Paul à l'église de Rome. Alors, je ne sais pas si ça vous frappe comme étant une mission importante. En tout cas, pour moi, je pense que c'était une mission très importante. Ça voudrait dire qu'en partie, nous devons à Phoebé, à sa fidélité, d'avoir entre nos mains cette lettre aujourd'hui. Et puis, il faut se rappeler que le voyage à l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui. Elle n'a pas sauté dans un avion à Corinthe pour, une heure plus tard, atterrir à Rome en toute sécurité. Le voyage était dangereux. Voyage par bateau, il y avait le risque de naufrage, le risque de pirates, le risque d'un problème de santé, parce que le voyage ne se faisait pas tout de suite, de tempête, etc. Et donc, c'est à cette femme qu'il confie son épître. Ça montre une grande confiance que l'apôtre Paul a dans cette sœur. Alors, il y a quelques questions de traduction au sujet de ce premier verset et qui ne sont pas sans importance pour notre compréhension du texte. Quand l'apôtre Paul qualifie Phoebé de servante dans certaines traductions ou de diaconesse dans d'autres, dans le second 21 où nous lisons ce soir, on traduit un mot grec, diakonos, qui peut être traduit de deux manières, ou dans un sens très large, non institutionnel, ou on traduirait plutôt comme serviteur ou assistant. Et parfois dans la Bible, et c'est dans ce sens où il faut le lire. Mais quelquefois, le mot diakonos prend un sens plus officiel, un serviteur reconnu, un ministère reconnu dans une église du style. On pourrait le traduire par diacre ou ministre. Alors, qu'est-ce qui permet au traducteur de choisir l'une ou l'autre traduction? Nous allons regarder ça. Donc, d'abord, une petite liste de traductions et ce qu'ils ont fait ici. Donc, le Louis II, 1910, a traduit comme servante, ainsi que la seconde révisée. Nouvelle édition de Genève en 1979, la Bible Ostervald, la Bible Derby a servante. Diaconesse, nous avons la Bible de Jérusalem, la TOB, traduction économique de la Bible, seconde 21, la Nouvelle Bible seconde, ou la Bible du Semeur qui traduit, qui exerce son ministère dans l'église de Chancheray. J'ai mis ça aussi plutôt du côté diaconesse. Il me semble que c'est ce qu'on peut deviner vers derrière ce terme, exercer un ministère. Alors pourquoi les traductions choisiraient-elles l'un ou l'autre de ces mots? On va d'abord prendre les arguments en faveur d'un sens large, c'est-à-dire non institutionnel. C'est que Paul emploie ce terme de plusieurs manières dans le Nouveau Testament. Il l'emploie pour parler de lui-même, parfois serviteur, pour parler d'Apollos dans 2 Corinthiens 6 et 1 Corinthiens 3. Et nos Bibles traduisent toujours par serviteur dans ces contextes-là. Mais parfois, en effet, il fait référence à un office plutôt reconnu, comme dans 1 Timothée 3, quand il parle des prérequis pour être diacre dans une église. Et dans Philippiens 1, il adresse sa lettre aux anciens et aux diacres. Il pense à des personnes spécifiques dans l'église de Philippe qui ont été reconnues. Donc ici, il n'y a pas de référence directe à un office reconnu ou à un cadre institutionnel, du moins c'est ce qui motiverait ceux qui traduisent par servante. Et c'est peut-être par prudence que les traducteurs ont choisi un sens faible, par peur d'anachronisme. C'est-à-dire que aujourd'hui, peut-être dans certaines églises, on parle plus facilement de diacre, de diaconesse. Peut-être on en parlait un peu moins au premier siècle. Maintenant, voyons des arguments pour un sens un peu plus officiel, c'est-à-dire la traduction diaconès. Alors, il y a d'abord la construction, elle est diaconès ou servante, serviteur de l'église de Chancheray. Ça semble donner un rôle un peu officiel. Elle est servante de cette église ou diaconès de cette église. On sait qu'il y avait des diacres reconnus, on vient de le voir dans Philippiens 1:1. Mais je pense que l'argument le plus fort, c'est la recommandation que Paul donne, où il évoque une mission importante pour Phoebé auprès de l'église de Rome. On a l'impression qu'elle voyage seule, sinon il aurait recommandé plusieurs personnes, Phoebé et un tel, auprès de l'église de Rome. Elle doit recevoir une aide de cette église. Est-ce qu'il se réfère peut-être à une aide financière pour financer son voyage retour, par exemple? Et puis, il y a un dernier argument en faveur qui n'est pas négligeable. Il emploie un peu plus loin un terme prostasis, un terme assez rare dans le Nouveau Testament, qui est traduit ailleurs par protecteur, défenseur, soutien, patron. Donc la TOB traduit ce terme par bienfaitrice, la NBS traduit par protectrice, et il semblerait que la traduction elle a aidé simplement serait un appauvrissement lexical. Donc si elle est en effet une protectrice, un soutien, une patronne, on imagine que c'est probablement quand même quelqu'un d'un peu éduqué, ce qui était plutôt rare pour les femmes au premier siècle, quelqu'un de débrouillard, peut-être quelqu'un avec un certain statut social, puisqu'elle va voyager jusqu'à Rome. L'apôtre Paul ne prendrait pas, je crois, quelqu'un d'illettré pour faire cela. Et puisque elle a aidé beaucoup et qu'elle était une protectrice, je préfère la traduction diaconas que nous avons dans la seconde 21. Après cette recommandation de Phoebé auprès de l'Église de Rome, nous avons du verset 3 au verset 16 où l'apôtre Paul va saluer beaucoup de personnes dans l'Église de Rome. Je vous demanderai de vous rappeler que l'apôtre Paul n'a jamais visité Rome et l'Église de Rome. Alors la question vient assez naturellement à l'esprit, mais comment connaissait-il 26 personnes dans une église qu'il n'a jamais visitée? J'ai quelques suggestions. L'apôtre Paul était un grand voyageur devant l'Éternel. Et donc dans ses voyages, il a croisé beaucoup de monde dans beaucoup d'églises. Et nous savons que d'autres voyageaient beaucoup à cette époque. Il y avait la célèbre Pax Romana, la paix romaine, qui était imposée par l'Empire romain sur tout le monde méditerranéen. Donc du fait qu'il contrôlait tous les pays, qu'il contrôlait les mers, le voyage était relativement sécurisé à cette époque. Et ce qui permettait beaucoup d'échanges entre les grandes villes de l'Empire. Ce n'était pas le cas, ne serait-ce que 500 ans plus tard, quand les barbares ont envahi Rome, et tout au long du Moyen Âge, le voyage était beaucoup plus dangereux. Mais à cette époque, il y a beaucoup de voyages. Donc, qui voyage? Ben, les militaires. On sait que César envoie ses troupes à droite et à gauche à travers l'Empire. Les commerçants. Vous avez une petite fenêtre sur ça dans Apocalypse, chapitre 18, je crois, où la ville de Rome tombe et il y a beaucoup de commerçants qui pleurent la chute de Rome. Et on parle des bateaux marchands, etc., et tout ce qui transportait. Il y avait les fonctionnaires parce que l'empereur envoyait à droite et à gauche des gouverneurs et certainement des scribes, des aides des gouverneurs pour contrôler les territoires dominés par Rome. Et puis il y avait des serviteurs de Dieu itinérants. On le sait ça par les épîtres, par les actes des apôtres. Et donc l'apôtre Paul a croisé des gens qui venaient, qui allaient vers Rome. 26 personnes quand même. Les premières personnes qui souhaitent saluer à Rome, c'est un couple, Priscilla et Aquilas. Un couple que nous allons appeler faiseurs de tentes, un couple mobile au service de l'Évangile. Nous allons nous arrêter un peu sur ce couple remarquable. Lisons d'abord. Saluer Prisca et Aquilas, donc elle est parfois appelée Prisca, parfois Priscilla, Priscille dans certaines traductions. Saluer Prisca et Aquilas, mes collaborateurs en Jésus-Christ. Ils ont risqué leur tête pour me sauver la vie. Je ne suis pas le seul à leur être reconnaissant. C'est aussi le cas de toutes les églises des non-juifs. Saluer aussi l'église qui est dans leur maison. J'aimerais vous parler un petit peu de Prisca et Aquilas. D'abord, leur mobilité, parce que dans le Nouveau Testament, nous les trouvons dans cinq endroits différents. D'abord, il nous est dit dans Actes chapitre 18 qu'ils sont originaires de la région qu'on appelle le Pont. Le Pont, c'est au nord de la Turquie actuelle. Mais que ils avaient, enfin, qu'ils seraient partis du pont pour aller à Rome, parce que quand Paul les rencontre à Corinthe, ils avaient été expulsés de Rome. Donc il y avait des persécutions contre les Juifs à Rome. On ne sait pas si à ce moment-là, Priscilla et Aquila sont déjà dans la foi en Christ, mais en tout cas, ils sont juifs. Et ils souffrent de cette expulsion. Ils se retrouvent à Corinthe, c'est là qu'ils vont rencontrer l'apôtre Paul. Ils font des tentes, c'est le même métier que l'apôtre Paul, c'est comme ça qu'il lie d'amitié. Et où ils sont convertis, où ils vont se convertir sous le ministère de l'apôtre Paul. En tout cas, quand il va quitter Corinthe, probablement 18 mois plus tard, Il embarque avec lui Priscilla et Aquilas pour les amener à Éphèse et pour les déposer à Éphèse. Et il ne va pas rester avec eux là-bas et certainement ils ont comme mission de démarrer une église à Éphèse ou d'enseigner des croyants à Éphèse. Quand ils sont à Éphèse, ils vont recevoir Apollos et ils vont le prendre à la maison où et Priscilla et Aquilas vont enseigner la voie du Seigneur un peu plus exactement parce qu'il lui manquait des éléments importants à Apollos. Mais d'Éphèse, ils sont de toute évidence retournés à Rome parce que ici, Paul les salue à Rome et ils ont une église dans leur maison à Rome. Mais plus tard, parce qu'on croit que 2 Timothée est écrit pas mal après l'épître romain, l'apôtre Paul les salue à nouveau à Éphèse. Donc on voit ce couple qui est prêt à bouger pour la cause de l'Évangile, pour la cause du royaume. Alors j'ose vous poser la question, accepteriez-vous de quitter votre ville pour aller aider une église dans une ville, une autre région, un autre pays? Parce que voyager à l'époque aussi, ça voulait dire apprendre une autre langue, certainement, pour servir dans une autre région. Des choses remarquables chez Priscilla et Aquilas. Ils sont mobiles, nous l'avons dit. Ils s'autofinancent en faisant des tentes. Donc c'est devenu une expression missiologique aujourd'hui. Des faiseurs de tentes sont des personnes qui partent en mission en pourvoyant à leurs propres besoins. C'est d'ailleurs comme cela seulement que parfois aujourd'hui on peut entrer dans pas mal de pays pour être missionnaire, comme enseignant dans un métier médical, comme ingénieur agronome ou avec un autre métier. Et l'avantage était qu'ils n'étaient pas dépendants des églises pour leur soutien. Ils travaillent en couple. J'ai le grand privilège de pouvoir souvent faire équipe avec mon épouse et j'en suis très très reconnaissant. Et c'est beau quand un couple peut travailler ensemble au service de l'Évangile. Priscilla elle-même est une femme remarquable, d'abord parce qu'elle est mentionnée. Il y a tant de serviteurs de Dieu dans le Nouveau Testament qui sont mentionnés sans leur épouse. Là, à chaque fois, Aquilas est mentionné avec son épouse Priscilla. Ils sont mentionnés à 6 reprises dans le Nouveau Testament. Dans 4 fois sur 6, Priscilla est mentionnée en premier, Priscilla et Aquilas. Ça a gêné certains traducteurs de la Bible, notamment dans la Bible Seconde de 1910, au point où ils ont changé l'ordre en méprisant un petit peu le grec, la manière dont Paul avait écrit, pour mettre Aquilas en premier. L'apôtre Paul les salue et leur rend hommage parce qu'ils ont risqué leur vie pour sauver l'apôtre Paul. Malheureusement, on ne sait pas où, on ne sait pas comment. On peut imaginer peut-être que c'était à Éphèse, parce qu'il y a eu des émeutes à Éphèse, mais on n'en sait pas plus. Ils ont hébergé des églises à Éphèse, à Rome et très probablement à Corinthe aussi. Avez-vous déjà eu une église dans votre maison? Ça nous est arrivé pour des courtes périodes. C'est un défi. C'est un défi parce qu'il faut faire le ménage avant que les frères et sœurs arrivent. Il faut faire le ménage après que les frères et sœurs partent. Souvent, les enfants ont été dans les chambres, jouer avec les jouets de la famille et ont laissé un peu de désordre. Les voisins peuvent se plaindre, etc. Donc, chapeau à Priscilla et Aquilas pour avoir accueilli des églises dans leur maison. Une dernière chose, ils sont juifs. Et on sait que les Juifs, à cette époque, au premier siècle, ne se mélangeaient pas facilement avec les non-Juifs, mais ayant rencontré le Seigneur et ont compris que l'Évangile était pour tous le salut, pour quiconque croit, du Juif premièrement, puis pour le Grec aussi, ils étaient au service des églises non-juives. Dans notre famille d'église, on a essayé de démarrer un ministère qu'on appelle Priscilla et Aquilas. On a lancé ce défi. S'il y a des couples prêts à quitter, peut-être ils font partie d'une église un peu plus grande, on les invite à considérer des petites églises dans des petites villes qui luttent, qui n'ont peut-être pas beaucoup d'enseignants, pas beaucoup de responsables. On les invite à aller dans une autre ville pour aider une jeune église ou une église vieillissante, pour les encourager, les fortifier. Et puis on essaie de les suivre, les encourager un peu dans ce ministère. Nous continuons dans les salutations. Saluez Épaynette, mon bien-aimé, qui a été le premier fruit pour Christ en Asie. Donc, nous remarquons ici la tendresse de l'apôtre Paul. Il appelle ce frère son bien-aimé. Je ne sais pas quelle image vous avez de l'apôtre Paul, si vous trouvez que c'est quelqu'un d'un peu dur, un peu bête sec parfois. Eh bien, dans ses salutations, ce n'est pas du tout cette image que nous avons. Il a été, cet Épaynette, le premier fruit pour Christ en Asie. Je remarque ici un peu la nostalgie de l'apôtre Paul. Peut-être que cette petite remarque ne vous touche pas beaucoup, mais moi qui ai pu participer à l'implantation de plusieurs églises dans plusieurs villes différentes, je me rappelle très bien des premiers fruits. Parce qu'on peut parfois labourer pendant 1 an, 2 ans et ne pas voir de fruits dans une ville pour la prédication de l'Évangile. Et puis il y a quelqu'un qui vient à Christ. Ah, oh, merci Seigneur. Un premier fruit et une prémisse d'une récolte à venir. L'apôtre Paul salue plusieurs sœurs, Marie, Tryphène et Tryphose, qui sont très probablement sœurs, puisqu'elles sont saluées ensemble et que leurs noms se ressemblent, et Perside. Saluez Marie qui a beaucoup travaillé pour vous. Saluez Tryphène et Tryphose, elles qui travaillent pour le Seigneur. Saluez la bien-aimée Perside qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Donc nous remarquons que Paul n'hésite pas à reconnaître publiquement le service de personnes pour l'évangile de Christ. C'est une très bonne pratique dans une église. Andronicus et Junia, encore un couple très probablement au service de l'Évangile. Ce couple a fait couler pas mal d'encre, alors nous sommes obligés de commenter un peu les différentes questions et théories qui ont été émises à leur égard. Saluez Andronicus et Junia, mes compatriotes et mes compagnons de détention. Ils sont très estimés parmi les apôtres et se sont même convertis à Christ avant moi. Alors, il y a une question dont il nous faut parler dans un premier temps. Junia, est-ce un homme ou une femme? Bon, ça vous paraît peut-être évident, mais ça ne l'est pas totalement autant que ça. Dans le grec est à l'accusatif ici, puisqu'il faut les saluer. Et son prénom s'écrit donc dans le grec Iunian. Ça ne permet pas de distinguer vraiment si c'est un homme ou une femme. Mais les historiens nous disent que Junia était un prénom féminin connu à Rome. Les premiers commentateurs de l'Épître aux Romains, c'est-à-dire parmi les pères d'Église, Chrysostome, Origène, Jérôme, La croix, une femme. On verra tout à l'heure quelque chose que Chrysostome a écrit à son sujet. Mais les traducteurs ont pris des options différentes. La seconde 21, la Bible de Summer, Nouveau Français Courant, la Bible de Jérusalem, la Tob, ont écrit Junia, qui serait plutôt féminin. D'autres Bibles, la seconde, nouvelle édition de Genève, Darby Tob, dans son ancienne édition, ont plutôt écrit Junias, qui serait un prénom masculin. Mais la mention en binôme avec Andronicus tend à indiquer qu'il s'agit d'une femme. Alors cela soulève d'autres questions. On peut faire deux lectures de ce texte. On peut lire qu'ils sont éminents parmi les apôtres, ce qui laisserait croire que l'apôtre Paul les considère comme apôtres, ou on peut lire qu'ils sont estimés par les apôtres. Alors il s'agit de la traduction d'une petite phrase en grec dans le datif qui est un petit peu ambigu. Donc il y a ce qu'on appelle un datif de sphère où on lirait qui sont parmi les apôtres, au sein des apôtres ou dans le cercle des apôtres. C'est la lecture la plus commune de cette phrase. Ou on peut le lire cette phrase comme un datif d'agent qu'on traduirait plutôt, ils sont estimés par les apôtres, aux yeux des apôtres, auprès des apôtres. Donc c'est une lecture qui existe, mais qui est un peu plus rare, mais qui laisserait entendre qu'ils n'étaient pas apôtres. Alors, je vais vous parler des deux lectures et les raisons qui ont amené nos traducteurs et nos commentateurs bibliques à choisir l'une ou l'autre option. D'abord, la lecture inclusive, c'est-à-dire que Andronicus et Junia seraient des apôtres, feraient partie des apôtres. Alors, un argument grammaire, nos experts nous disent que cette expression signifie presque toujours remarquable parmi dans la littérature grecque antique. Dans le contexte plus large de notre Nouveau Testament, on sait que l'apôtre Paul emploie le terme apôtre de manière assez large parfois. Il ne fait pas toujours référence aux 12 apôtres, par exemple Sylvain et Timothée, Barnabas et d'autres sont aussi appelés apôtres. Donc on va prendre apôtre dans un sens un peu plus large comme des envoyés pour l'annonce de l'Évangile, pour la fondation d'Église. On peut savoir que ce sont des convertis de la première heure, c'est-à-dire ils sont en Christ avant l'apôtre Paul, on l'a vu dans notre texte. Donc ça pourrait les qualifier pour un rôle de responsable peut-être dans l'Église, puisque ce sont des chrétiens expérimentés. S'ils se sont convertis avant Paul, ils étaient très proches des événements, de la passion, peut-être ont-ils même connu le Christ. On sait qu'ils ont fait de la prison parce qu'il dit qu'ils ont été détenus comme lui pour l'Évangile. Donc, qui est-ce qu'on met en prison? En général, ce sont des responsables d'œuvres qu'on met en prison. Je vous accorde que ce sont des suppositions. Ensuite, il y a une histoire d'interprétation. L'histoire de l'interprétation, Chrysostome écrit, quelle louange elle reçoit, être appelée apôtre et parmi les plus éminents. Alors les pères d'Église n'ont pas toujours raison, mais ils étaient un peu plus proches du grec déjà et des événements que nous. Je vais continuer un peu sur ce couple et après on aura un temps de questions et de pauses. Alors il y a l'autre lecture qui dit non, ils n'étaient pas appelés apôtres par Paul, mais ils étaient estimés par les apôtres. Donc, on a vu qu'on peut le lire comme ça selon la grammaire grecque. Je crois que l'argument principal ici, c'est que l'apôtre Paul, dans ses autres écrits, est assez restrictif concernant le ministère féminin. Si on lit 1 Corinthiens 11, 1 Corinthiens 14, 1 Timothée 2, il n'était pas en faveur de l'enseignement par les sœurs. Donc, il serait étonnant qu'il appelle ici une femme apôtre. Voilà les traductions qui ont fait l'un ou l'autre des choix. La Bible du Semeur, une lecture inclusive, ils sont estimés en tant qu'apôtres. Ou la Tobe révisée, remarquable parmi les apôtres. Après, il y a une manière de laisser la lecture ambiguë, c'est peut-être le bon choix. Estimé parmi les apôtres, ça peut vouloir dire estimé comme apôtre ou estimé par les apôtres. C'est le choix de la seconde 21, Bible français courant et la Darby. Ou non inclusive, l'ancienne Tobe, parce que ça a été révisé après, estimée des apôtres et parole de vie ancienne bien considérée par les apôtres. Peut-être qu'on va s'arrêter ici et on va laisser du temps pour des questions.
Alors, vous êtes toujours invité à poser des questions si vous en avez sur ce qui a été présenté jusque-là. Je trouve intéressant de creuser un petit peu ces textes, de voir un petit peu tout ce qu'on peut tirer en fait de ces phrases, des fois qu'on lit un peu rapidement. Merci, Brad, pour cette première partie de la présentation. Alors, il y a un frère qui pose la question. Je n'ai pas bien compris le fait que dans certains passages, Prisca est nommé premièrement et dans d'autres, c'est Aquilas. Par exemple, dans 1 Corinthiens 16, 19. Est-ce que tu veux ajouter un complément sur le fait qu'elle est en premier ou...
Oui, merci pour cette question. Donc, ils sont mentionnés à 6 reprises dans le Nouveau Testament, à 4 reprises dans notre texte ici, dans Romains, elle est mentionnée en premier, dans le grec, et à 2 reprises, c'est donc Aquilas qui est mentionné en premier. Donc, c'est intéressant pour plusieurs raisons. D'abord, souvent, les épouses ne sont pas mentionnées du tout dans la Bible. Ensuite, c'est intéressant qu'ils mettraient l'épouse en premier, vu la culture de l'époque, qui était quand même, c'était inhabituel. Et ce que j'ai dit, c'est que apparemment, ça choquait il y a quelques années, certains traducteurs de la Bible, au point où ils se sont permis de changer l'ordre pour toujours mettre Aquilas en premier. Donc, c'était le cas dans la Bible Louis II de 1910, par exemple. Ce qui montre que quand on traduit la Bible, on a beau faire attention, essayer de faire de son mieux, mais quelquefois, on laisse apparaître notre culture théologique ou ecclésiale dans la traduction. Je le mentionne aussi parce que, comme nous verrons, il y a tout un débat dans les milieux évangéliques par rapport au ministère féminin. Il y en a qui ont une approche qu'on va appeler égalitarienne, où ils font aucune différence entre le ministère des femmes et des hommes. Une femme peut être apôtre, prophète, pasteur, ancien, diacre, etc. Et d'autres qui ont une lecture plus complémentaire des textes du Nouveau Testament. Et ceux qui ont une lecture égalitarienne vont souvent faire référence à ces deux couples que nous avons dans ces premiers versets.
Merci. Il y a une remarque complémentaire dans Acte 18, verset 26, où il nous est dit, alors je ne sais pas dans quelle version c'est, Aquilas est mentionné en premier en français et Priscilla en premier dans le grec.
Oui,
La
c'est ça.
personne n'a pas noté dans quelle version c'était. Mais ça correspond à ce que tu as dit.
Oui, et
Des fois.
c'est un texte important aussi parce que c'est le texte où il est dit que Priscilla et Aquilas prennent Apollos chez eux pour lui enseigner plus exactement la voix du Seigneur.
Vrai que dans ce cas-là, ça paraît curieux que Priscilla soit mentionnée en premier. Est-ce que c'était une personne plus importante ou socialement parlant, on peut se poser la question. Une autre question concernant Junias, justement. Comment se fait-il que la traduction de Louis II indique Junias au masculin, donc, alors que dans le même verset, c'est indiqué immédiatement après mes parents et mes compagnons de captivité? Donc c'est vrai que si on... Alors il faut savoir de quoi on parle quand on parle des parents, mais a priori on devrait parler d'un couple. Mais est-ce que c'est vraiment un couple dans ce cas-là? Peut-être,
Oui.
peut-être pas.
Oui, alors je vais commenter ce terme parent tout à l'heure,
D'accord.
mais c'est probablement pas la meilleure traduction parent. Dans d'autres traductions, nous avons compatriote. En fait, l'apôtre Paul appelle parents tous ceux qui sont de la race juive. On l'a vu d'ailleurs dans le chapitre 9 de Romains.
D'accord. Alors, premièrement, je n'ai pas d'autres questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas pendant la pause. À tout à l'heure.